dans les coulisses de Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Pendant 3 semaines, nous accompagnons le manager de l'équipe, Ralf Denk, au cœur de la plus grande et la plus titrée des équipes cyclistes allemandes sur le Tour de France. Vous avez des questions pour Ralf Denk ? Envoyez-les à tobias.ruflu@bmedia.de et maintenant, profitez bien de ce nouvel épisode.
Un début calme et un final furieux. Lors de la 5e étape vers Pau, les sprinteurs n'ont laissé aucun doute sur le fait que ce serait leur journée. Le meilleur d'entre eux aujourd'hui était Olaf Quaitsch de l'équipe Decathlon. Au classement général, il n'y a aucun changement. Je vous salue pour le Point Quotidien, comme toujours en France, auprès du directeur d'équipe de Red Bull, Bora Hansgrohe. Bonjour à toi, Ralf Denk.
Bonjour, bonsoir et salutations à Hohenheim.
Oui, Ralf, c'était un peu plus détendu aujourd'hui que les jours précédents. Le départ a eu lieu un peu plus tard que d'habitude. C'est vrai qu'au début, le peloton a beaucoup discuté, on a un peu ri. Et l'échappée solitaire de Baptiste Weisstrofer a pu être relativement bien contrôlée. Est-ce que c'était aussi détendu jusqu'au final que ça en avait l'air de l'extérieur? Ou comment l'as-tu vécu?
Oui, je dirais que presque tous les coureurs attendaient cette journée. Les 4 premiers jours ont été extrêmement intenses et tout le monde espérait un peu plus de calme aujourd'hui. Il faisait aussi moins chaud aujourd'hui que ces derniers jours et tout le monde a pu un peu récupérer car tout le monde a déjà en tête la difficile étape des Pyrénées demain et c'est pourquoi on a d'abord pris les choses doucement. Mais ça reste une étape du Tour de France. Il s'agissait toujours, ou plutôt d'une victoire prestigieuse à Pau au sprint final, et c'est pourquoi la fin a été finalement stressante.
Oui, nous allons en parler tout de suite. Il y a eu une chute assez violente dans un virage à droite à 5 km de l'arrivée. Plusieurs coureurs sont tombés à première vue. Je dirais qu'aucun des vôtres n'était impliqué. Est-ce bien le cas?
Oui, c'est exact. Nous nous en sommes bien sortis, mais nous avons encore prévenu les coureurs ce matin lors du briefing. Ne prenez pas cette journée à la légère. Restez concentrés, roulez groupés. Ne faites pas les idiots sur le vélo. C'est précisément lors de journées comme celle-ci que l'on peut perdre le Tour de France ou être contraint à l'abandon. C'est pourquoi nous leur avons redit de rester vraiment concentrés, mais nos gars ont fait du très très bon travail aujourd'hui, aussi en vue de demain.
Oui, je pense que lors de ces journées, il est préférable pour le classement général de ne pas trop vous voir à l'écran. Est-ce que dans le déroulement, quand c'est un peu plus calme, qu'on a un peu plus de temps, qu'on est sur place et qu'on reste, je crois, aujourd'hui encore dans la même ville, est-ce qu'on a un rythme un peu différent ou est-ce qu'on essaye vraiment de se lever pareil, de garder les mêmes habitudes ou est-ce que tout est un peu plus détendu?
Oui, nous avons dormi à l'aéroport de Toulouse et nous avons eu encore plus d'une heure de transfert en bus pour le départ aujourd'hui. Ce n'était donc pas si tard que ça aujourd'hui et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je crois qu'il faut vraiment garder le rythme quotidien. Et c'est agréable aujourd'hui. Nous sommes à l'hôtel à Pau, là où se trouvait l'arrivée. Donc le transfert n'était que de 5 km. Très, très, très inhabituel pour un Tour de France.
On peut certainement en avoir besoin, je peux l'imaginer. Jetons un œil au final, c'était aujourd'hui, comme je l'ai dit, une étape pour les sprinteurs. On attendait de grands noms comme Tim Merlier, Jasper Philipsen. Au final, c'était Olaf Quaitsch, pas un inconnu non plus. Quel est ton avis sur ce final ?
Oui, c'est l'un des très grands sprinteurs qui a gagné ici. J'aurais vraiment aimé que Max Kanter, qui a fini deuxième avec l'équipe Astana, gagne ici, mais ça n'a pas tout à fait suffi. C'est donc le meilleur qui a gagné aujourd'hui. J'ai bien sûr regardé le sprint et Tim Merlier ainsi que Jasper Philipsen, les grands favoris, n'avaient aucune chance aujourd'hui.
Oui, comment vois-tu le double rôle de l'équipe Decathlon? Ils ont le grand espoir français Paul Lapeyra, mais aussi un sprinter qui bénéficie de moins de soutien. On peut dire que ça a parfaitement fonctionné puisqu'ils ont gagné le premier sprint. Vous avez fait le choix délibéré de ne pas le faire, voilà, pour avoir un maximum d'aide en montagne. Vous y avez réfléchi. Que penses-tu, hein, penses-tu de leur stratégie? Je veux dire, enfin, là, ça semble très bien fonctionner. Non?
Car en fin de compte, le vainqueur a toujours raison et ils ont gagné aujourd'hui.
On verra bien les conséquences sur le classement général. C'est une décision courageuse, c'est certain. Ils ont un jeune très ambitieux, Paul Texas, qui vise le podium et ils ont aussi aligné un sprinter. C'est un choix audacieux. Ça a évidemment fait parler et pas seulement en France. Ils ont un peu raté le contre-la-montre par équipe. On a fait porter le chapeau aux sprinteurs, à Couege et ses équipiers. Je pense que pour Paul Texas, ce n'est pas facile de comprendre qu'il y ait un sprinteur en plus alors qu'il est arrivé ici en super forme. Et les prochaines étapes nous diront si Paul Sex peut aussi assurer ou si c'était le bon choix de briller dans les sprints et d'avoir un sprinteur avec eux. Comme je l'ai dit, ce n'est pas mon équipe, l'équipe Décathlon, mais ils ont vraiment pris une décision courageuse.
Oui, et nous verrons si cela porte ses fruits. Ralph, j'aimerais revenir avec toi aujourd'hui, même s'il a fait un peu plus frais sur ce que nous avons brièvement abordé hier. Il faisait de nouveau chaud et nous avons déjà évoqué tout ce que vous faites sur place. Vous avez toute une équipe qui s'occupe de fournir des gilets réfrigérants et de distribuer des poches de glace. Après, ils vont dans le bain glacé, on leur tend des bouteilles sans arrêt. Mais ce qui m'intéresserait, et sûrement aussi certains de nos auditeurs, que font les coureurs pour se préparer à de telles conditions? Je sais qu'il y a cette grande tendance devenue presque omniprésente de l'entraînement à la chaleur. On voit des gens qui s'entraînent en combinaison de peintre ou très chaudement vêtus sur leur home trainer. Peux-tu nous éclairer là-dessus? Que faites-vous concrètement et à quoi cela sert-il?
Oui, il faut faire la distinction entre l'entraînement à la chaleur et l'acclimatation à la chaleur. Un entraînement à la chaleur a un effet similaire à un entraînement en altitude. Et une adaptation à la chaleur, on le fait plutôt pour se préparer à des courses qui ont lieu dans des régions chaudes. Ce sont donc deux choses différentes.
Ce que tu as mentionné, hein, avec une combinaison de peintre ou très chaudement vêtu sur le home trainer, c'est de l'entraînement à la chaleur.
On ajoute ça à l'entraînement normal, environ une heure. On monte sur le home trainer, on se couvre très chaudement et on fait monter la température corporelle à 38 ou 38,5 degrés. On peut mesurer ça avec un thermomètre auriculaire ou avec un capteur de température interne relié au cardiofréquencemètre. Et quand on pousse la température corporelle à ces niveaux, cela a un effet similaire à un entraînement en altitude. Voilà pour ce qui est de l'entraînement à la chaleur. Quant à l'acclimatation à la chaleur, elle se fait aussi après l'entraînement, mais plutôt en prenant des bains très chauds. Moi, même s'il fait déjà chaud dehors, je vais ensuite au sauna.
Ce sont plutôt des choses pour s'acclimater quand je, comme ici maintenant, pour me préparer à des courses sous la chaleur.
Je comprends. J'ai aussi noté ici adaptation à la chaleur versus entraînement à la chaleur, mais tu as déjà merveilleusement bien clarifié la chose. Par conséquent, nous en restons bien sûr à la même approche. Je reviens brièvement sur l'entraînement à la chaleur. Est-ce que tous les coureurs le font vraiment maintenant? Parce qu'on le voit partout sur Instagram et parce que ça a un effet scientifiquement prouvé. Ou comment procédez-vous? Vous le faites de manière individuelle? Je sais que j'ai déjà vu Winnepool le faire, même avant qu'il ne vous rejoigne. Quelles sont vos directives à ce sujet?
Oui, cela dépend vraiment de chaque cas. Je ne peux pas entrer dans les détails car je ne suis pas un expert en sciences du sport. Mais on m'a dit, ou j'ai pu constater dans mon équipe, qu'avec l'entraînement à la chaleur, on court moins de risques de faire des erreurs qu'avec l'entraînement en altitude. En stage en altitude, on peut aussi faire énormément d'erreurs. C'est-à-dire qu'on roule trop vite en altitude ou qu'on ne s'acclimate pas correctement. Le risque de tomber malade en altitude est nettement plus élevé que si tu t'entraînes au niveau de la mer. Le risque que beaucoup de choses tournent mal lors d'un stage en altitude est bien réel.
alors qu'avec l'entraînement à la chaleur, ce risque est relativement faible. Cela signifie que l'entraînement à la chaleur n'est peut-être pas aussi efficace que l'entraînement en altitude, mais vous ne risquez pas autant de faire des erreurs et c'est aussi plus facile à mettre en place. C'est pourquoi on peut faire beaucoup de travail de base avec l'entraînement à la chaleur plutôt qu'avec un stage en altitude.
Je comprends. Et vous le faites aussi. Donc, chacun de vos coureurs l'a intégré dans son programme d'entraînement.
C'est défini individuellement ou recommandé par les coachs, mais c'est certain, on l'a déjà fait et on le refera à l'avenir.
Très bien, j'en viens à la deuxième paire de chaussures, l'acclimatation à la chaleur, l'adaptation thermique. Qu'en faites-vous cela et est-ce une partie directe de la préparation car le corps se désaccoutume, bain chaud, sauna, etc. Ou comment procédez-vous pour l'intégrer?
Oui, c'est simplement une mesure de récupération qui a aussi pour effet de préparer aux courses par forte chaleur. Une personne normale qui fait 4 ou 5 heures de vélo par 30 degrés ne va pas au sauna après, mais toi, tu y vas quand même ou tu prends un bain bien chaud à la limite du supportable. C'est une vraie adaptation pour les courses sous la chaleur.
D'accord. Mais c'est vraiment un domaine qui demande, disons, un travail professionnel pour réussir à s'adapter à ces conditions, n'est-ce pas? Parce que je peux dire par expérience que j'ai essayé les deux. Ce n'est pas très amusant car on produit très peu de puissance avec un rythme cardiaque très élevé justement à cause de cet effet de chaleur. Et comme tu viens de le décrire, la séance de sauna à 30 degrés, c'est assez peu agréable. Est-ce que tu recommanderais ça aux gens qui veulent essayer ou est-ce que c'est vraiment réservé aux professionnels?
Alors, je dirais que les vrais pros, ça, les cyclistes amateurs très ambitieux peuvent essayer. Personnellement, je trouve que ce n'est pas un plaisir.
Absolument. Mais c'est très, très utile, du moins pour ces journées-là. Et d'après ce que j'ai entendu dans les interviews, il y a déjà eu des étapes chaudes par le passé et il semble que les coureurs y soient mieux préparés. Est-ce que tu partages cet avis au bout du compte?
Oui, absolument, car autrefois, pour des courses aussi chaudes, on ne prenait aucune mesure, ni dans la préparation, ni pendant ou avant la course. On subissait simplement la chaleur. Aujourd'hui, on se prépare vraiment à la chaleur en amont, mais aussi pendant la course. Et c'est, à mon avis, une raison majeure pour laquelle les courses ont tendance à être plus rapides aujourd'hui, car on a beaucoup appris sur l'adaptation à la chaleur de manière scientifique, et cela n'existait tout simplement pas il y a 20 ans.
Parfait, nous passons à l'étape suivante, mais avant cela, j'ai une toute petite annonce à faire concernant un jeu concours. Sur notre page Instagram, le nouveau compte Instagram Insight Point Tour de France Podcast, il y a la possibilité de gagner un maillot blanc de l'année dernière de Florian Lipovits. Tout ce que vous avez à faire, c'est de passer sur cette page. Tout y est décrit ou alors également en bas dans les notes de l'épisode. Si vous voulez remporter un maillot dédicacé de Lipovits, voici une petite précision. Il est à gagner chez nous. Et le vainqueur sera prévenu à la fin du Tour de France. Voilà, parenthèse terminée. Ralph, nous nous tournons vers demain et il faut s'attendre à beaucoup moins de détente qu'aujourd'hui. Nous entrons dans les Pyrénées avec plus de 4000 mètres de dénivelé incluant le col du Tourmalet et une arrivée au sommet. À quoi t'attends-tu pour demain? Une grande bataille?
Oui, c'est une étape très, très difficile demain. La première fois en haute montagne avec des ascensions de plus de 10 km. À mon avis, il y a deux scénarios. Soit l'équipe UAE et Pogacar qui ont fait la plus forte impression jusqu'ici en tant qu'équipe et en tant que coureur individuel déclenchent une guerre pour faire exploser le peloton et que chacun monte le col du Tourmalet, cette ascension décisive en solitaire. où ils se disent, d'accord, nous avons laissé le maillot jaune au coureur norvégien hier presque sans combattre. Nous voulons qu'il le porte encore après l'étape de demain, car cela soulage notre équipe. Cela préserve nos ressources. Cela pourrait aussi être un scénario. Je pense que demain, l'équipe UAE mènera la danse sur la façon dont la course se déroulera et tous les autres, nous y compris, adopteront plutôt une attitude réactive. D'abord, il faudra voir quel est le rythme de base. Comment l'attaque de Pogacar sera-t-elle préparée? Nous allons d'abord veiller à être bien placés et à rester le plus longtemps possible avec les meilleurs au Tourmalet, puis peut-être aussi dans la montée finale vers Gavarnie.
Ouais, donc si je comprends bien, votre tactique est de garder le scénario ouvert et de rester au contact sans pour autant dire qu'on va porter une attaque précise à tel ou tel endroit.
Oui, on a bien vu lors des premières étapes à quel point l'équipe et Tadej Pogacar sont forts. Je pense que personne ne veut foncer tête baissée. Donc, je crois que les autres équipes, y compris nous, mais aussi Decathlon et Visma, vont plutôt rester sur la réserve. Ou peut-être que le jeune Français Paul Sexer est tellement inspiré par le col du Tourmalet. C'est une montagne classique et mystique qui va tenter quelque chose contre Pogacar, mais cela m'étonnerait. Je pense plutôt que tout le monde attend de voir ce que vont faire UAE et Pogacar.
Très bien, nous regarderons ça comme toujours. Une brève annonce pour demain, ce sera un cas particulier. Nous devrons improviser un peu. Tu as un rendez-vous important juste après l'étape et cela signifie que nous ne pourrons nous parler que très, très tard. Cela ne signifie pas que l'épisode sera annulé. Nous discuterons dès que possible pour analyser toute l'étape et ce, dès que nous le pourrons. Une brève question à ce sujet. Peux-tu nous dire quelque chose sur cet entretien important qui décale le podcast ou n'y a-t-il aucune information?
Oui, je suis désolé de ne pas être disponible demain après la course, mais nous en avons déjà parlé. Le Tour de France n'est pas seulement un très grand événement sportif, c'est aussi une affaire de business. Pour moi, en tant que PDG, le côté business est tout aussi important que le côté sportif et j'ai quelques points à l'ordre du jour demain. Je ne peux pas les reporter, mais je prendrai quand même le temps, juste avant de dormir, de faire un petit point sur la journée.
C'est exactement ce que nous allons faire. Le montage sera fait le soir même. Pour les couches tard parmi vous, vous pourrez l'écouter et les autres le lendemain matin. Pour aujourd'hui, je vous dis merci et j'envoie mes salutations en France.
Avec grand plaisir et je vous renvoie mes salutations à Rosenheim.
C'était l'édition actuelle de Inside Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Vous trouverez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur les sites d'OVB Media et d'IPEN Media. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine émission.